I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cela fait plusieurs semaines que les agriculteurs espagnols manifestent dans le pays de manière ininterrompue. Ce mercredi, ils ont mené une nouvelle journée de mobilisation. Des centaines de tracteurs ont convergé vers la capitale.
Après les Pays-Bas, après l'Allemagne, après la France, autour de l'Espagne de mesurer la colère et l'exaspération de leurs agriculteurs. Eux se plaignent notamment de la concurrence des fruits et légumes marocains qui ne poussent pas dans les mêmes conditions sanitaires que les leurs. Le gouvernement espagnol est à son tour sous pression et à Bruxelles, il veut simplifier les règles de la PAC, mais aussi renforcer certaines clauses dans les accords de libre-échange, notamment en matière de contraintes agricoles et environnementales. Suivez mon regard vers l'Amérique latine et le Mercosur, objet de toutes les critiques dans les campagnes. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Nicolas élève une centaine de bêtes. Impossible pour lui de rivaliser avec les exploitations sud-américaines, qui en comptent plusieurs milliers.
On a un certain nombre de bêtes qui sont autorisées au mètre carré chez eux, elles sont entassées les unes sur les autres. Ce qui ne va pas surtout, c'est que là-bas, on pique aux hormones, c'est nourri à l'OGM. Nous sommes défavorisés par rapport à toutes les normes qu'on nous impose. En fait, nos produits sont très chers par rapport à ce qui est importé et on n'arrive pas à s'aligner.
Nicolas, éleveur dans le Haut-Rhin, témoigne sur BFM TV, c'était il y a un mois. Il explique pourquoi il ne veut pas de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Il ne lutterait pas à armes égales. Les éleveurs sont en colère, ils sont de moins en moins nombreux et leur production trop chère peine à s'écouler alors que la consommation de viande de bœuf s'est effritée en France l'an dernier dans un contexte d'inflation. Le Mercosur, objet d'un rejet quasi systématique sur toutes les routes de campagne, en France mais pas seulement. Mais pourquoi cet accord en cours de négociation suscite-t-il une telle opposition? Pour le savoir, je suis allé flâner du côté du service international des Échos jusqu'au bureau de Richard Yo. Bonjour Richard.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes enquêteur aux Échos, spécialiste des organisations internationales notamment. Alors d'abord, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que c'est que le Mercosur?
Eh bien, aujourd'hui, le Mercosur est un marché commun qui a été créé en 1991 et qui regroupe quatre pays d'Amérique latine, à savoir le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. À l'origine, il y avait aussi le Venezuela, mais le pays a été exclu du groupe en décembre 2016 pour les raisons politiques que l'on connaît. Et ce Mercosur s'est enrichi en décembre dernier par l'arrivée d'un autre pays qui va être intégré, c'est la Bolivie. Alors le Mercosur, c'est la cinquième économie mondiale en dehors de l'Union européenne, avec une population de plus de 260 millions d'habitants et un PIB annuel qui dépasse les 2200 milliards d'euros. En comparaison, l'Union européenne, elle, compte environ 450 millions d'habitants pour un PIB de quelque 16 000 milliards d'euros. Donc c'est une grande zone économique, le Mercosur.
Et depuis combien de temps parle-t-on d'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur?
Eh bien, Pierrick, il en est question depuis 25 ans. La question d'un accord de libre-échange entre les deux blocs fait suite à un accord cadre interrégional de coopération entre les pays du Mercosur et l'Union européenne qui avait été signé en décembre 95. 4 ans après, le début des négociations est arrivé pour conclure un accord de libre-échange et ces négociations ont duré pendant 25 ans. Puisque un premier accord, je dirais, a été conclu entre les deux blocs en 2019. Mais, il y a un mais, l'Union européenne, par la suite, a voulu intégrer dans cet accord une annexe pour des questions d'ordre environnemental, de réchauffement climatique, de protection de la forêt et de normes environnementales. Et c'est aujourd'hui sur ce volet-là que l'on continue de négocier.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet, la forêt notamment, sur lequel le Brésil est assez sensible, on va dire, quel que soit d'ailleurs le président brésilien. Il y a d'autres accords de ce type en Europe ?
Je dirais, mon cher Pierrick, que l'Union européenne est la championne des accords de libre-échange, de partenariat ou d'accords d'association. Aujourd'hui, on recense 47 accords préférentiels avec un total de 79 pays partenaires. Néanmoins, il faut faire la part des choses. Depuis quelques années, l'Union européenne s'est engagée sur la voie d'accords commerciaux dits de nouvelle génération, avec une forte composante commerciale, certes, mais également des engagements sur le plan de la protection de l'environnement, de la lutte contre le réchauffement climatique, des droits de l'homme, de la protection de la biodiversité. Pour les plus emblématiques, on peut citer l'accord du CETA avec le Canada, l'accord avec le Japon, le Vietnam, Singapour, la Nouvelle-Zélande. Bruxelles a parachevé la modernisation d'un ancien accord avec le Chili pour toutes ces questions environnementales, protection de la biodiversité. Et elle négocie la même chose avec le Mexique pour prendre en compte aussi cette nouvelle dimension de sa politique commerciale. Donc comme vous le voyez, l'Union européenne n'a pas manqué de conclure des accords.
On a beaucoup entendu parler du Mercosur ces dernières semaines, notamment dans le cadre de la colère des agriculteurs en France, mais pas que, puisque cette colère touche un certain nombre de pays européens. On comprend qu'avec ces accords, il n'est pas seulement question d'agriculture. Que prévoit justement cet accord de libre-échange, le Mercosur ?
Bien sûr, Pierrick, il ne concerne pas uniquement l'agriculture. Il couvre beaucoup de domaines qui vont du commerce, des biens et des services. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit d'abord une réduction importante des barrières tarifaires en vigueur en Amérique latine. Pour prendre un exemple, sachez que les importations de voitures sont taxées à 35% dans les pays du Mercosur, tout comme les textiles ou les chaussures. Les machines, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques, eux, sont taxés entre 14 et 18%. Dans le domaine agroalimentaire, qui nous concerne, nous Français, le vin est taxé à 27%, les alcools entre 20 et 35%, comme les boissons non alcoolisées, par exemple. Pour résumer, l'accord envisage la suppression des droits de douane sur 91% des biens exportés par l'Union européenne vers le Mercosur. En contrepartie, bien évidemment, l'Union européenne abaissera aussi ses droits de douane sur 92% des biens importés sur son marché en provenance des pays du Mercosur. L'accord prévoit aussi une plus grande ouverture des marchés publics des quatre pays d'Amérique latine. C'est une grande revendication des Européens. Il comporte aussi d'importantes règles sur les questions sanitaires et phytosanitaires. Bruxelles assure d'ailleurs que l'accord maintient les normes les plus strictes que l'Union a adoptées en matière sanitaire et phytosanitaire. Le texte confirme également de manière explicite le respect du principe de précaution européen. En fait, cet accord permettra aux entreprises européennes de fournir plus facilement des services et des biens aux pays du Mercosur et offrira de nouvelles possibilités d'investissement grâce à ses dispositions sur l'établissement des entreprises dans le secteur des services, tant que de l'industrie manufacturière.
La reunión de los ministros exteriores del Mercosur empezó este miércoles en Río de Janeiro, donde discutirán el estado de las negociaciones con la Unión Europea.
L'Union européenne espérait boucler l'accord avec les pays du Mercosur le 7 décembre dernier lors d'un sommet qui s'est tenu à Rio de Janeiro. Il n'en a rien été. Pour quelle raison, Richard ?
Bien, Pierrick, pour la simple et bonne raison que les pays d'Amérique latine se sont énervés et estiment que l'Union européenne, en demandant de nouveaux engagements sur le chapitre environnemental et climatique, est allée trop loin. Le souhait européen d'imposer des normes de production agricole avec des clauses miroirs, de lutter contre la déforestation, d'interdire certains pesticides, a été vu comme une sorte de néocolonialisme par les pays du Sud américain. Et donc, le 7 décembre dernier, les négociations ont été plutôt houleuses et n'ont pas pu aboutir.
Les agriculteurs très remontés contre l'accord qui vient d'être signé entre l'Union européenne et les quatre pays du Mercosur. Depuis hier soir, ils se mobilisent partout en France. Manifestations tous azimuts contre cet accord qui prévoit la libéralisation des échanges sur plusieurs produits agricoles.
C'était en 2019, un jet de bottes symbolique contre le bâtiment de la préfecture à Nantes, en réponse à la signature du traité commercial avec le Mercosur. 5 ans plus tard, la colère n'est pas retombée, elle est devenue multiforme. Mais pourquoi les agriculteurs ne veulent-ils pas du Mercosur ? C'est la question que j'ai posée à Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agriculture aux Échos.
C'est sans doute pas tous les agriculteurs, mais c'est un certain nombre d'entre eux et tout particulièrement les éleveurs. Il y a également les producteurs, les planteurs de betteraves, hein, puisque le Brésil est, d'une manière générale, le Brésil est une énorme puissance agricole et elle est devenue encore plus importante à l'époque de Lula, qui avait décidé de sortir le Brésil de ses difficultés économiques en développant l'agriculture. Il avait tellement bien réussi son affaire qu'il a même fait peur aux États-Unis, parce que le Brésil était alors devenu numéro un dans plusieurs productions comme le soja et des céréales. Donc voilà, le Brésil fait peur aux Européens, fait peur aux éleveurs français, parce que c'est aussi le premier exportateur de viande bovine et qu'on n'a pas du tout les mêmes conditions de production. Le Brésil a, je crois que c'est la moitié de la surface agricole du Brésil qui est assurée par 4700 exploitations de plus de 1000 hectares. En France, on a 400 000 exploitations qui font une moyenne de 60 hectares, à titre indicatif. Donc, on n'est pas dans les mêmes rapports de coûts de production du tout.
Justement, vous avez visité des exploitations dans les pays du Mercosur ?
Oui, j'ai visité des exploitations au Brésil et en Argentine. Les consommateurs argentins sont de très gros amateurs de viande. Malgré tout cela, l'Argentine a fait le choix de développer la culture de soja, tant et si bien que les prairies où paissaient tranquillement les bovins se sont considérablement réduites, que des abattoirs se sont retrouvés au milieu des champs de soja et donc ont fermé. Donc l'Argentine, pour le coup, n'est plus, bien que dans le Mercosur, n'est plus un danger en termes d'exportation. Le Brésil l'est considérablement. Les Européens ont fait des calculs, et les Français en premier lieu. Ils ont converti les exportations de viande bovine possibles au travers des termes du Mercosur en alloyaux, c'est-à-dire en pièces, et en ajoutant tous les accords que l'Union européenne a passés en bilatéral ou est en train de passer, c'est-à-dire avec le Mexique, le Chili, le Brésil, l'Argentine, etc., ils ont trouvé qu'on importerait plus d'équivalents alloyaux qu'on en produit.
Il y a cette image aussi d'énormes fermes de production. En France, c'est très rare de voir des exploitations de plus de 100 vaches. Ce serait une petite exploitation en Argentine ou au Brésil.
Oui, tout à fait. Au Brésil, les exploitations sont immenses. Peut-être pour les trois quarts du temps d'élevage des bovins brésiliens, ils sont à l'extérieur. Mais à la fin de leur temps de production, de leur temps d'élevage, on va dire, la tradition est de les mettre, comme aux États-Unis, dans ce qu'on appelle des feedlots, c'est-à-dire un peu en concentration, et les animaux sont souvent entravés. Et dans cette période-là, ça devient de l'élevage hyper intensif où on les pique pas à l'EPO pour autant que je sache, mais on les pique au soja en tout cas, et pour qu'ils prennent du poids et qu'ils soient le plus rentable possible.
C'est aussi ce modèle, finalement, dont ne veulent pas aujourd'hui les agriculteurs français.
Oui, tout à fait. Mais ce modèle-là, comme je le disais tout à l'heure, permet des coûts de production qui sont incomparables avec le modèle français. Donc, on ne peut pas résister. On n'a pas les moyens de résister. On ne peut rien faire en termes d'adaptation des élevages en France pour concurrencer des pays de ce type.
Les gagnants, les grandes industries européennes et les firmes agroalimentaires du Mercosur. Les perdants, les agriculteurs européens, les employés des industries du Mercosur, le climat, la biodiversité, la santé, bref, beaucoup trop de monde.
À la vidéo d'une ONG opposée à cet accord, quels seront les gagnants, quels seront les perdants, telle est la question. Richard, vous vous interrogiez récemment dans une analyse pour Les Échos sur le caractère supposément mortifère des accords de libre-échange pour l'agriculture de l'Europe. Que disent justement les études d'impact sur la question ?
Tout dépend de qui a élaboré l'étude, qui a fait ces études. Certaines ONG ne manquent pas de brandir l'effet néfaste des accords de libre-échange sur certaines filières agricoles comme l'élevage des bovins, comme la volaille ou encore sur les filières des fruits et légumes. À l'inverse, des centres de réflexion européens, tout comme la Commission européenne, ne manquent pas de souligner que ces accords ont permis à l'industrie agroalimentaire européenne de prospérer. L'ancien directeur général de la Direction générale du commerce de la Commission européenne, Jean-Luc Demarty, a ainsi souligné qu'en 2023, l'Union européenne atteindrait un excédent de 70 milliards d'euros de sa balance commerciale agroalimentaire, soit un progrès continu de 60 milliards d'euros en 15 ans, période qui a vu une grande prolifération des accords de libre-échange.
Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants, mais qu'à l'échelle de l'Europe et même de la France, ces accords sont plutôt favorables?
Alors, je dirais que sur un plan général, les accords de libre-échange sont plutôt favorables au commerce européen. En 2022, pour la première fois de son histoire, le commerce de l'Union via ces accords de libre-échange a dépassé les 2000 milliards d'euros. La balance est largement excédentaire, puisqu'on importe 171 milliards d'euros pour 229 milliards d'euros d'exportation. Donc, sur un plan global, c'est plutôt positif. Maintenant, quand on regarde dans le détail les accords, ils ne sont pas tous bénéfiques pour certaines filières. Par exemple, l'accord avec la Corée, le Japon et le Canada ont été plutôt positifs sur le plan agricole. C'est moins le cas avec le Vietnam. Pour le Canada, par exemple, on avait craint une invasion de viande bovine sur le marché européen qui serait exportée par les Canadiens. Eh bien, ces craintes ne se sont pas matérialisées. Mieux, les exportations de viande de l'Union européenne vers le Canada ont augmenté de 136%. Pour la France, cet accord avec le Canada, cela s'est traduit par une hausse notable des exportations de vins et spiritueux, ainsi que de fromage. En revanche, l'industrie agroalimentaire nationale n'a guère profité de l'accord conclu cette fois-ci avec le Vietnam. La France est en déficit, 160 millions d'euros, comme l'Union européenne. 2 milliards d'euros de déficit. Pourquoi? Parce qu'on importe des fruits et légumes, du cacao, du café, du thé. Et donc ça, ça pèse dans la balance commerciale entre l'Union européenne et le Vietnam. Et l'observation est rigoureusement identique en ce qui concerne les échanges avec la Colombie cette fois-ci, où l'Europe est aussi en déficit, presque 2 milliards d'euros. De même, les importations européennes de fruits et légumes en provenance du Chili ont creusé le déficit des échanges avec l'Union européenne. Vous le voyez, il faut prendre accord par accord et filière par filière pour voir où ça fonctionne et où ça fonctionne un peu moins bien.
Oui, Richard, alors ça c'est pour le passé, mais qu'en serait-il en cas d'accord avec les pays du Mercosur?
Alors, la grande crainte actuelle, c'est que l'accord avec le Mercosur suscite un tsunami agricole. Là encore, les opposants redoutent une invasion de viande bovine ou de volaille en Europe qui viendrait fragiliser un peu plus certains producteurs européens, en particulier français. Dans une étude parue en février, la Commission européenne a d'ailleurs concédé qu'en ce qui concerne le bœuf, les prix à la production de la filière baisseraient d'environ 2,4% dans l'Union, tandis que la production reculerait de près de 1%. On comprend bien que le Brésil est un grand compétiteur en ce qui concerne le bœuf. La compétitivité des éleveurs brésiliens s'illustre d'ailleurs par le fait que malgré des droits de douane à l'entrée du marché européen aujourd'hui de 40 à 45%, le Brésil a quand même réussi à exporter près de 90 000 tonnes l'an dernier. L'accord UE-Mercosur, que prévoit-il ? Il octroie un quota d'importation de 99 000 tonnes pour les quatre pays qui rentreraient sur le territoire européen sans droit de douane. Donc les éleveurs européens redoutent un raz-de-marée. S'ils arrivent déjà à exporter avec des taxes de près de 40%, ils ne vont pas se priver d'exporter sans droit de douane. Bruxelles a toujours assuré que ces quotas pouvaient être largement absorbés par le marché européen. Il y a une petite blague qui circule à Bruxelles qui assure que ce quota ne représente en termes de consommation annuelle qu'un steak de 200 grammes pour chaque Européen. C'est pas la mer à boire.
Ça va pas ?
C'est le vegan qui est venu saccager la boucherie. Je vais lui péter la gueule à poil de 40. Il va voir le rook. Si ça bouffait de la viande, ce serait peut-être un peu plus résistant.
L'agriculture n'est pas la seule concernée, malgré tout. Qu'en est-il des autres secteurs économiques? Que peuvent-ils espérer de ces accords?
Eh bien, il faut bien se rendre compte, Pierrick, que dans la compétition économique mondiale, la Chine ne cesse de monter en puissance. Grâce à ces accords commerciaux, l'Union européenne parvient à augmenter ou à stabiliser ses parts de marché. Prenons le cas de l'Amérique latine, par exemple. L'Union européenne a réussi à maintenir sa part de marché autour de 10% dans les pays avec lesquels elle a signé un accord. Quels sont-ils? Le Chili, le Pérou, l'Équateur, la Colombie. En revanche, si l'on regarde les pays du Mercosur, cette part de marché est passée de 35% en 1994 à moins de 20% aujourd'hui. Contrairement à la Chine qui, elle, a vu son poids passer d'environ 1% en 94 à 17% sur la même période. Et on peut faire le même constat lorsqu'on regarde la zone asiatique. L'Europe a perdu du terrain dans les pays avec lesquels elle n'a pas d'accord de libre-échange. Bref, en éliminant les barrières tarifaires, on facilite le commerce, ce qui est le plus grand mantra de l'Organisation mondiale du commerce.
Richard, l'Espagne agricole est aussi en ébullition. Là-bas aussi, la concurrence des pays tiers soulève l'opposition des agriculteurs. L'Espagne a laissé fin décembre la présidence de l'UE, mais elle veut rester en pointe sur le sujet. Madrid veut notamment renforcer les clauses dites miroirs dans les accords de libre-échange, pas seulement celui avec le Mercosur, d'ailleurs en cours de discussion. Avec quel objectif ?
Alors, les clauses miroirs, il n'y a pas que l'Espagne qui veut les mettre en place. Les Français sont très favorables à ces clauses miroirs. Ça veut dire quoi? Ces clauses miroirs, ça revient à imposer aux pays avec lesquels on souhaite faire du commerce les mêmes normes de production. C'est une revendication essentielle de l'Union européenne avec les pays du Mercosur que défend le monde politique. Les clauses et mesures miroirs qu'exigent les agriculteurs sont un moyen d'éviter une concurrence déloyale. L'idée est d'imposer aux pays tiers les mêmes normes environnementales que celles exigées en France et en Europe aux agriculteurs. L'Institut Veblen, la Fondation nationale pour l'homme et les professionnels français du bois disent que l'utilisation de pesticides au Brésil a des impacts considérables sur la santé, notamment des producteurs et des riverains, la dégradation de l'environnement, la contamination des eaux, la perte de biodiversité, en particulier des insectes pollinisateurs. Donc mettre des clauses miroirs se heurte toutefois aux oppositions de l'Amérique latine. Je me pose une question. Et je ne suis pas le seul à me la poser. Peut-on imposer les mêmes normes environnementales de production à des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes en termes de climat que les Européens ? Les pays d'Amérique du Sud sont plutôt tropicaux, voire équatoriaux, alors que le climat en Europe est plutôt tempéré. Donc ça nécessite une certaine adaptation des modes de production. La question est posée.
Quelle est la position de la France ?
La France, depuis plusieurs années, est vent debout contre cet accord. L'ensemble de la classe politique française est à l'unisson sur ce sujet. En l'état actuel du texte, il est hors de question de le valider au niveau du chef de l'État, Emmanuel Macron l'a rappelé récemment, ni à l'Assemblée nationale. La France est-elle seule ? La Pologne, l'Autriche et la Belgique sont eux aussi un peu réservés, mais ils n'ont pas la même tonalité aussi virulente que la France. C'est vraiment la France qui est en pointe contre cet accord entre l'Union européenne et le pays du Mercosur.
Comment les pays du Mercosur réagissent-ils à cette agitation de l'Europe, notamment l'Argentine et le Brésil, deux gros producteurs agricoles mais aussi miniers ?
En la matière, c'est le Brésil qui est plutôt le plus vocal sur le sujet, qui semble mener le bal. Le président Lula n'a pas mâché ses mots en estimant que les exigences européennes sont inacceptables, elles sont partiales. Côté argentin, on reproche à l'Europe de présenter une vision partiale du développement durable, excessivement axée sur l'environnement. Le président Lula a répété l'an dernier qu'en l'état actuel des discussions, le texte est inacceptable. Les partenaires stratégiques ne négocient pas sur la base de la méfiance et de la menace de sanctions, a-t-il vertement lancé, avant d'ajouter « Nous ne sommes pas intéressés par les accords qui nous condamnent au rôle éternel d'exportateurs de matières premières, de produits miniers et de pétrole ».
Un dernier mot, Richard, l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur est-il mort et enterré ?
Alors, il faut savoir que cette année, en juin, se profilent les élections européennes, où les pays européens vont voter durant le mois de juin. Il me paraît inconcevable qu'un accord définitif soit conclu entre l'Union européenne et le Mercosur. Les Européens ne vont pas prendre le risque de provoquer un peu plus la colère des agriculteurs, d'autant plus qu'elle ne semble pas apaisée. On est simplement en train de couver. La Commission européenne ne va pas prendre le risque d'annoncer un deal. Ce serait faire le jeu des extrêmes lors de ce scrutin européen, favoriser les populistes ou l'extrême droite. Moi, je pense que tout se décidera à partir de l'été, une fois la nouvelle Commission européenne en place. Mais en l'état, la France, qui est pourtant vent debout contre cet accord, ne pourra pas s'opposer à elle seule à un accord souhaité par bon nombre de pays européens, et notamment l'Allemagne. Il faut savoir qu'en Europe, les accords commerciaux sont de la compétence exclusive de la Commission européenne et sont votés à la majorité qualifiée. Si la France est seule, elle ne pourra pas empêcher le deal. Mais en l'état actuel des choses, tout peut arriver.
Merci Richard Hillot, enquêteur au service international des Échos. Et merci Marie-Josée Cougar, journaliste au service entreprise. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.